Bonjour à tous. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 9. Et on va lire ensemble du verset 9 au verset 13. L'évangile de Matthieu, au chapitre 9, verset 9. Jésus s'en alla. En passant, il vit un homme installé au poste de péage. Son nom était Matthieu. Il lui dit « Suis-moi ». Matthieu se leva et le suivit. Un jour, Jésus était à table chez Matthieu. Or, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs notoires étaient venus et avaient pris place à table avec lui et ses disciples. En voyant cela, les pharisiens interpellèrent ses disciples. Comment votre maître peut-il s'attabler de la sorte avec des collecteurs d'impôts et des pécheurs notoires ? Mais Jésus, qui les avait entendus, leur dit : Les bien portants n'ont pas besoin de médecins, ce sont les malades qui en ont besoin. Allez donc apprendre quel est le sens de cette parole. Je désire que vous fassiez preuve d'amour envers les autres plutôt que vous m'offriez des sacrifices. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. On va s'arrêter là pour la lecture. Christelle et moi, on a des caractères assez différents. Et quand, par exemple, elle me dit qu'elle a une course à faire, et elle doit, par exemple, je ne sais pas, aller dans les magasins, ou alors elle doit aller voir quelques personnes, elle me dit, bah, je serai rentré avant midi, comme ça on aura le temps de manger, tout va bien. Et en général, moi, je m'agace parce qu'elle n'est pas là à l'heure qu'elle avait prévu de venir, d'arriver. Je m'agace, je me dis, c'est quand même dingue. Et en fait, après, alors elle revient et puis elle dit, bah oui, bah, en sortant, j'ai vu la voisine, alors on a discuté un quart d'heure. Après, au magasin, j'ai vu quelqu'un de l'église, donc on a échangé des nouvelles. Et puis après, je devais passer chez quelqu'un, puis après, bah, je ne pouvais pas juste rentrer et sortir pour lui donner ce que j'avais donné, donc on a discuté. Et puis moi, je suis quand même un petit peu agacé. Je me dis, ah oui, mais bon, elle devait se souvenir qu'on devait manger ensemble quand même. Voilà. Parce que moi, dans mon caractère, si j'ai un objectif, eh ben, je mets tout en œuvre pour arriver à cet objectif et puis on y arrive. Voilà. C'est comme ça qu'il faut faire de la vie. N'est-ce pas ? Ah, j'ai raison. Hein. Mais je crois qu'en fait, Christelle est en train de m'apprendre quelque chose. C'est que nos projets, c'est bien. Mais les relations, c'est mieux. Et en fait, toute la Bible, en fait, c'est l'histoire de quoi ? C'est l'histoire de la relation entre Dieu et ses créatures, et nous. Et en fait, la bonne nouvelle, l'évangile, c'est la relation que Jésus, que Dieu veut avoir avec nous. Et en fait, ce qui compte plus, c'est les relations. Et puisque l'évangile, c'est une relation avec Jésus, ben nous, il faut qu'on prenne le temps de développer aussi des vraies relations avec tous ceux qui nous entourent. Et en fait, cet exemple que j'ai tiré de l'évangile de Matthieu, qu'on vient de lire, ça nous apprend plein de choses. Déjà, puisque l'évangile, c'est une relation avec Jésus, il nous invite à le suivre, à entrer en relation avec lui. C'est ce qu'on voit dans le verset 9. Et puis ensuite, puisque l'évangile, c'est une relation avec Jésus, ben, il nous invite à partager cette relation. C'est ce qu'on voit dans le verset 10. Et puis, puisque l'évangile, c'est une relation avec Jésus, ben, il nous invite aussi à aimer. Et c'est ce qu'on voit dans les versets 10 à 11 à 13. Alors, la première partie. Donc, Jésus nous invite à le suivre. Et là, on voit la rencontre de Jésus avec un homme qui s'appelle Matthieu. Matthieu est à son travail, il collecte les impôts. Alors il est préposé à la collecte des taxes et des droits de passage sur les marchandises. En fait, ce métier-là, c'est le métier d'un auxiliaire, d'un délégué de l'Empire romain, parce que l'Empire romain n'embauchait pas ses propres fonctionnaires. partout où l'Empire romain s'était déployé. Et finalement, il demandait à des gens de récolter les impôts et les taxes pour eux, et les droits de douane, d'où de passage pour les marchandises. Alors, ces collecteurs d'impôts, pour se payer eux-mêmes, et puis pour limiter les risques en fait, de ne pas pouvoir donner à Rome ce qu'il fallait qu'ils donnent, eh ben, ils exigeaient des sommes supérieures à ce que Rome demandait. Et donc, dans la comptabilité, on peut facilement tricher avec les chiffres, ben, leur moralité était assez douteuse. C'est-à-dire qu'ils se débrouillaient pour en mettre plus dans la poche que ce qui était nécessaire. Et d'ailleurs, Jésus, quand il parle des collecteurs d'impôts, il dit bien ben, c'est des gens dont la moralité est un peu douteuse. En plus, ces collecteurs d'impôts, ben, quelque part, ils collaboraient avec l'occupant romain. Donc vis-à-vis des autres juifs, ils étaient mal vus, quoi. Ils étaient méprisés. Et tout ça fait de Matthieu un personnage pas très recommandable. Et pourtant, dans ce récit très simple, Jésus le voit, il s'approche de lui, il lui dit simplement « Suis-moi ». Et ce Matthieu, il se lève et il le suit immédiatement. Dans le passage parallèle, dans l'évangile de Luc, Luc précise qu'il laissa tout et qu'il a suivi Jésus. Jésus appelle une personne finalement ordinaire pour le suivre. On n'a pas d'indication dans la Bible que Matthieu avait des qualités particulières. Et pourtant, ce Matthieu, ben, il va devenir un des quatre évangélistes, un de ceux qui ont rapporté les paroles de Jésus, et on peut lire le fruit de son travail dans l'évangile aujourd'hui. On n'a pas beaucoup d'informations sur Matthieu, et on ne sait même pas ce que Matthieu savait vraiment de Jésus au moment où il a commencé à le suivre. Alors là, on est dans la ville de Capernaum, dans le nord d'Israël, dans la Galilée, la région d'où Jésus venait, puisqu'il venait de Nazareth. Et probablement que Matthieu devait connaître, Jésus, hein. Capernaum, ce n'était pas une grande ville. Et puis, du bruit commençait à se répandre hein, suite à l'enseignement de Jésus. En tout cas, il n'y a pas d'hésitation, il n'y a pas de tergiversation. Matthieu répond immédiatement à l'appel de Jésus. Et Jésus va appeler différentes personnes. Hein. Et à beaucoup de personnes, il va leur dire « Suis-moi ». Il appelle, on voit aussi dans l'évangile, au chapitre 4, en ce même évangile, qu'il appelle Pierre et André, qui sont frères des pêcheurs, puis Jacques et Jean aussi. Dans l'évangile de Jean, on voit qu'il appelle Philippe, qu'il appelle Nathanaël. Et ces personnes répondent positivement. Et puis après, il y a dans d'autres passages, on voit que Jésus appelle des gens, leur demande de les suivre. Et puis ça ne se passe pas forcément si bien non plus. Matthieu chapitre 8, verset 18, ou dans le passage parallèle dans Luc 9, il y a un homme qui vient dire à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Et Jésus qui lui répond, « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où prendre du repos. » Et Jésus dit à un autre, « Suis-moi. » Mais cet homme lui dit, « Seigneur, permets-moi que j'aille d'abord enterrer mon père. » Et Jésus lui répondit, « Laisse aux morts le soin d'enterrer leurs morts. Quant à toi, va proclamer le règne de Dieu. » Un autre lui dit encore, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord de faire mes adieux à ma famille. » Et Jésus lui répondit, « Celui qui regarde derrière lui au moment où il se met à labourer avec sa charrue n'est pas prêt pour le règne de Dieu. » On voit que finalement, suivre Jésus, ce n'est pas si simple. Mais pourtant, Jésus nous appelle tous. Et qu'est-ce que ça veut dire suivre Jésus ? Ça veut dire le mettre en priorité dans sa vie, ça veut dire le mettre en priorité dans ses choix, dans ses décisions, et on n'est pas disciple de Jésus à moitié. Matthieu nous rapporte l'épisode du jeune homme riche, qui dit « Ben voilà, j'ai observé tous les commandements depuis ma jeunesse », ça c'est dans Matthieu au chapitre 19, « Qu'est-ce que je dois faire pour plaire à Dieu ?» Et Jésus lui dit « Ben écoute, vends tous tes biens, donne tout aux pauvres, puis là tu pourras me suivre. » Et là, il était riche en fait, ça l'embêtait quoi. Finalement, mettre en priorité Jésus dans sa vie, ce n'est pas si simple. Et en plus, ça ne va pas forcément être facile. Hein. Au chapitre 10 de Matthieu, dans le passage d'après, Jésus choisit ses disciples, ses 12 disciples, et il ne leur cache rien des difficultés qui vont les atteindre. Il n'y a pas de petites lignes en bas du contrat ou qu'on n'aurait pas lu au moment où... Il les envoie comme des brebis au milieu des loups. Mais en même temps, il leur dit de ne pas s'inquiéter et que lorsqu'on vous traduira devant les autorités, ne vous inquiétez ni du contenu ni de la forme de ce que vous direz, car cela vous sera donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, ce sera l'esprit de votre Père qui parlera par votre bouche. Et en fait, je crois que Dieu, il nous dit à chacun, aujourd'hui, je suis sûr, il nous dit, suis-moi. Et c'est à nous de décider, est-ce qu'on le suit ou pas. On est averti de ce que ça coûte, mais on sait aussi ce qu'on va gagner. L'espérance de la vie éternelle, c'est quelque chose qui est incomparable. La relation avec Dieu, c'est quelque chose qui est incomparable à tout le reste. Mais on est très attaché à ce qu'on voit autour de nous, à notre petit confort, nos richesses matérielles, notre stabilité. Mais finalement, de quel maître est-ce que je veux être le disciple ? Qui est mon modèle dans la vie ? À qui est-ce que j'ai envie de ressembler ? Ça, c'est toute la question que je vous laisse, que je me laisse. Est-ce que je veux être un vrai disciple de Jésus-Christ ? Tout laisser pour le suivre. Ensuite, Matthieu, ça l'a complètement transformé. Et on voit au verset 10 une seconde rencontre. Donc, puisque l'évangile, c'est la relation avec Jésus, Jésus nous invite à partager cette relation. Et la première action qui est rapportée de Matthieu en tant que disciple de Jésus, c'est d'organiser une grande réception. Alors l'évangéliste Luc, il précise que c'est même chez Matthieu lui-même. Matthieu, il ne le dit pas, il est peut-être un peu modeste quand il écrit son propre évangile. Mais il invite tous ses amis, tous ses collègues et Jésus pour qu'ils puissent tous entrer en relation. Jésus, il n'hésite pas à entrer en relation avec ces personnes qui pourtant sont des personnes de mauvaise réputation, hein. Des collecteurs d'impôts, des pêcheurs. Alors des pêcheurs, ça veut dire quoi ? C'est des personnes qui ne respectent pas la loi juive, la loi de Moïse. Et pourtant, il va entrer dans cette maison, il va prendre du temps avec eux, il va partager un repas. Et pourquoi c'est important cette histoire de repas ? Pas seulement parce qu'on est en France, mais parce qu'autour d'un repas, on apprend à se connaître, on s'ouvre à l'autre, on partage une partie de soi, on se découvre mutuellement, on prend du temps. Et du coup, ça me fait poser la question, qui est-ce que j'invite chez moi ? Avec qui je passe du temps ? Avec qui j'entre en relation ? Avec qui je partage vraiment ? Est-ce que je le fais avec mes proches ? Des gens qui me ressemblent, qui ont le même âge que moi, les mêmes goûts, le même arrière-plan culturel, le même genre de vie, parce que finalement, qui se ressemble, ça semble, quoi. Est-ce que, consciemment ou inconsciemment, je trie mes relations ? Et du coup, ça vaut le coup de réfléchir. Et alors, comment je trie mes relations ? Est-ce que c'est en fonction de quels critères ? Est-ce que c'est en fonction de la moralité supposée des personnes ? Par exemple, qu'est-ce que je développe comme relation avec mon voisin musulman pratiquant ? Est-ce que je l'invite chez moi ou est-ce que je vais chez lui ? Avec cet autre voisin qui est plutôt sympathisant d'extrême droite ? Ou avec une personne qui est en train de faire une opération pour changer de sexe ? Enfin, comment est-ce que je réagis vis-à-vis de ces personnes qui sont autour de moi et qui ne me ressemblent pas et que j'aurais plutôt tendance à mettre de côté ? En tout cas, Jésus, lui, il n'hésite pas. Et l'évangile, il se transmet par des rencontres. Dieu a misé sur quoi pour propager la bonne nouvelle de son royaume ? Il a misé sur des personnes qui vont rencontrer d'autres personnes. Et c'est comme ça que l'évangile nous a été transmis. Alors, il nous a peut-être été transmis par nos parents, mais qui l'ont reçu d'autres personnes. Et si on remonte, finalement, c'est ses disciples que Jésus avait choisis, ces 12 apôtres, qui étaient finalement des personnes complètement ordinaires, un collecteur d'impôts, des gens qui vivaient de la pêche. Il y avait entre autres aussi un nationaliste juif, enfin voilà, des gens pas spécialement instruits, pas spécialement avec des super capacités. Mais Dieu a misé sur ces personnes, Jésus a misé sur ces personnes, ça a propagé la bonne nouvelle de son royaume. Et en fait, en tant que disciples de Jésus-Christ, on est tous appelés à être des personnes qui vivent et qui annoncent l'évangile avec nos relations, avec les gens qui nous entourent. Alors bon, ça peut parfois susciter la controverse ou des confrontations. Et d'ailleurs, là, on le voit tout de suite. Les versets 11 à 13. Et Jésus, lui, il nous invite à aimer. Et là, on voit cette rencontre de Jésus avec les pharisiens. Alors, pour remettre un peu tout ça dans le contexte, ce récit se situe lors du ministère de Jésus en Galilée, donc au nord d'Israël. Et en fait, les bruits se sont répandus sur les réseaux sociaux qu'il y avait un nouvel enseignant qui faisait le tour des synagogues de la Galilée, qui proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu, qui guérissait tous les malades et tous les infirmes qu'on lui emmenait. Et du coup, de nombreuses personnes se sont mises à le suivre, de la Galilée, de Jérusalem, de la Judée, même de l'autre côté du Jourdain. On voit ça dans l'évangile de Marc, chapitre 4, versets 23 à 25, j'ai un peu paraphrasé. Parce que bon, les réseaux sociaux, c'était le bouche à oreille, mais ça fonctionne pareil. Et du coup, il y a des spécialistes de la loi qui sont venus voir de quoi il retourne et quel était ce nouvel enseignant, cet homme dont tout le monde parlait. Et la première mention des évangiles de ces personnages, c'est juste dans le passage précédent, avec l'histoire du paralytique qui est emmené par ses amis pour que Jésus le guérisse. Et puis Jésus lui dit, qu'est-ce qu'il lui dit en premier à ce paralytique ? Il lui dit, tes péchés sont pardonnés. Alors là, les spécialistes de la loi, les pharisiens, là, ils se disent, non mais quand même, il exagère, quoi. Ils se disent, non mais c'est un blasphème de dire un truc pareil. Tu peux pas dire à quelqu'un comme ça, tes péchés sont pardonnés. Il se prend pour qui ? Pour Dieu. Et là, ils se le disent juste dans leur esprit, parce qu'ils n'ont pas encore vraiment rencontré Jésus, là. Et Jésus, qui, lui, sait ce qu'il y a dans le cœur des gens, il leur répond, c'est quoi le plus difficile ? C'est pardonner les péchés ou c'est guérir quelqu'un ? Et là, il dit à ce paralytique, lève-toi et marche. En fait, c'était une manière pour Jésus de dire, je suis capable de faire quelque chose d'extraordinaire, qui vous semble extraordinaire à vos yeux, guérir ce paralytique, parce qu'en fait, je suis capable de faire quelque chose de bien plus grand que ça, pardonner les péchés. Quelque chose qui est complètement inaccessible pour l'homme. Et donc, ces pharisiens, c'est qui ? Chez les Juifs, il y avait différentes parties, différents courants. Et il y avait des personnes qui avaient particulièrement à cœur de suivre strictement la loi de Moïse et de respecter vraiment Dieu. En se disant, Dieu accorde sa grâce à ceux qui respectent ses commandements. Et alors, parce qu'à l'époque, il y avait peut-être beaucoup d'influences, par exemple les influences de la philosophie grecque. Et donc ils se disaient, mais non, nous on veut rester vraiment conforme à ce que dit la parole de Dieu, à ce que disent les commandements. Mais finalement, alors ils se sont dit, puisqu'il y a les commandements, pour être sûr qu'on ne va pas transgresser les commandements, on va en rajouter autour. Comme ça, on est sûr de ne pas, pas aller contre. Mais finalement, leur piété, elle est devenue formaliste. Et la disposition de leur cœur, elle finissait par avoir moins d'importance que l'acte extérieur visible. Et l'interprétation de la loi et son application à tous les détails de la vie quotidienne, tellement de détails que Jésus parle du fait que même il faisait la dîme sur les herbes produites, les herbes d'assaisonnement produites par le jardin. Doris, tu donnes la dîme sur le persil ou sur, je ne sais pas. Et du coup, les commentaires que les docteurs juifs avaient fait de la loi, c'est devenu finalement un véritable code qui faisait plus autorité que la loi elle-même. L'historien Joseph, qui était lui-même pharisien, il a dit que les scribes ne se contentent pas d'interpréter la loi plus subtilement que les autres sectes, mais imposent au peuple une masse de préceptes tirés de la tradition et ne figurant pas dans la loi de Moïse. Moi, j'ai lu ça dans le dictionnaire biblique. Du coup, évidemment, ils ont été super choqués par l'attitude de Jésus qui s'attablait avec des personnes qui étaient impures, qui ne respectaient pas la loi, des collecteurs d'impôts, qui collaboraient avec l'occupant romain. En fait, malheureusement, leur recherche de droiture, de moralité, elle s'est transformée en hypocrisie et en jugement. Alors, ils n'osent pas encore s'adresser à Jésus directement. Hein. Du coup, ils interpellent les disciples. Ils leur disent « Non, mais vous vous rendez compte, ça ne se fait pas d'aller manger comme ça chez des gens qui ne respectent même pas la loi juive. Et puis, il prétend être un enseignant, enfin, et dans les synagogues en plus. Enfin. » Et bon, Jésus, il coupe court et il leur répond directement en disant la même chose de deux manières. Il dit « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecins, mais ceux qui sont malades. » Alors, est-ce que les pharisiens sont vraiment, vraiment bien portants? En tout cas, eux, ils le pensent. Hein. Et puis, il leur dit aussi, donc, au verset 13, « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » J'aime bien la traduction que fait la Bible en français courant, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont. Il dit « Car je ne suis pas venu appeler ceux qui s'estiment justes, mais ceux qui se savent pécheurs. » Bah oui, hein, y a pas de juste, pas même un seul. C'est ce que nous dit le psaume 14, versets 1 à 3, dans l'Ancien Testament, et puis c'est ce que nous rappelle l'apôtre Paul dans Romains chapitre 3, verset 10. Et c'est sûr que si je m'estime juste, j'ai besoin de rien, ni de personne, et surtout pas de Jésus-Christ. Le problème des pharisiens, c'est qu'ils avaient plus de foi dans leur système de lois et de règles qu'en Dieu lui-même. Et du coup, ils n'avaient plus besoin d'une relation avec Dieu. Ça m'a fait penser à un truc. Ça m'a fait penser aux pièces montées. Vous allez dire, c'est quoi le rapport? Je vous explique. En fait, pour monter une pièce montée en chou, alors on peut la monter sans rien comme ça, mais c'est un petit peu aléatoire. Mais ce qu'on peut faire, c'est prendre un cône en inox. Et puis après, on met ses choux caramélisés autour. Et puis ça nous aide à monter la pièce montée. Et une fois que la pièce montée est belle, ben on enlève le cône en inox. Et avec le caramel, tout tient. Et finalement, bon alors la durée d'une pièce montée, c'est pas très long. Hein. Parce que le caramel, avec l'humidité, ça devient mou. Et puis ça m'est déjà arrivé d'aller à un mariage où il fallait vite faire des photos avant que la pièce montée se casse la figure. Bon, c'est quand même consommable. Hein, mais... Et en fait, donc cette vie de pharisien, elle me fait penser à un peu une pièce montée. C'est-à-dire qu'ils avaient la parole de Dieu. Et puis, ils ont construit leur système de loi tout autour, avec leur caramel, machin. Ça fait un bel édifice, bien brillant, joli, agréable à voir. Mais sauf qu'ils ont enlevé le cône de la parole de Dieu en inox qui était dessous. Et ben, du coup, c'est pas loin de s'effondrer, finalement. Et plutôt que d'être une pièce montée, je pense qu'il faut qu'on soit plutôt une colonne en béton armé. Alors... Déborah, je vais faire un peu de génie civil, c'est pas mon domaine, mais si je dis des bêtises, tu nous reprendras. En fait, le béton, c'est comme la pierre, ça résiste très bien en compression, quand on appuie dessus. Par contre, ça résiste rien en traction, ça casse. Et donc, pour que ça résiste en traction, qu'est-ce qu'on fait? On met des tiges d'acier à l'intérieur, qui, elles, résistent à la traction. Et donc, si on a une colonne... Qu'est-ce qui distingue d'une colonne en béton armé d'une colonne en béton sans armature? Visuellement, rien du tout. Par contre, la colonne en béton armé, au milieu, au centre de cette colonne, elle a une tige en béton, en fer, en acier solide, qui la tient. Et c'est ce qui permet de résister à des charges dingues. Enfin, on est capable de construire en béton armé des immeubles gigantesques, des ponts fabuleux, parce qu'au milieu de ce béton, il y a une armature en acier. Et donc, il faut qu'on soit plutôt une colonne en béton armé plutôt qu'une pièce montée. Et finalement, qu'est-ce qui est notre armature en acier dans notre vie? C'est la parole de Dieu. Ça ne doit pas être juste le cône sur lequel on a construit tout notre système et puis qu'on enlève à la fin. Mais ça doit être... cette armature qui reste et qui fait notre solidité. Je dois apprendre à me nourrir directement de la parole de Dieu. C'est elle qui est la source. Alors, je peux lire des tas de bouquins, d'articles, regarder des vidéos d'édification. C'est super bien. Mais il ne faudrait pas que ça soit ça qui me nourrisse et qui me détourne de ma lecture, de ma méditation en profondeur du texte de la parole de Dieu. Là, les Juifs, ils avaient la Torah. Donc la Bible, l'Ancien Testament, et puis enfin la Torah, c'est les cinq premiers livres de la loi. Et puis après, ils ont rajouté la tradition d'interprétation des rabbins, qui était orale. Et puis finalement, ça a été écrit, c'est devenu le Talmud, qui est l'interprétation de la Torah par les rabbins. Puis maintenant, on a des commentaires des rabbins sur le Talmud. Ben, finalement, on ne sait plus où est la parole de Dieu, quoi. Et déjà, à l'époque de Jésus, les pharisiens, ils avaient construit leur système. Ils n'avaient plus besoin de leur cône là en dessous pour soutenir. Et ils pensaient qu'il plairait à Dieu comme ça. Donc, si je veux aimer Dieu, je dois aimer sa parole. Et c'est ça qui va me permettre d'aimer les autres. Il y a ce verset que Matthieu cite, qui est tiré de Osée chapitre 6, verset 6, qui est entre les deux paroles qu'on vient de regarder. Donc c'est au verset 13. « Je désire que vous fassiez preuve d'amour envers les autres, plutôt que vous m'offriez des sacrifices. » Directement dans Osée, « Car je prends plaisir à l'amour bien plus qu'au sacrifice, à la connaissance de Dieu bien plus qu'aux holocaustes. » Ce que les pharisiens ils avaient oublié, c'est que Dieu souhaite développer avec son peuple une relation d'amour, pas une relation formelle, de règles à suivre. Et en fait, les prophètes, ils n'arrêtent pas de répéter ça tout au long de l'Ancien Testament. Il y a des tas d'images où Dieu dit, mais vous avez abandonné votre amour, vous êtes, et dans Osée en particulier, le peuple de Dieu est comparé à une femme qui va quitter son mari pour aller se prostituer. C'est un truc dramatique. Et pourtant, Dieu continue à aimer son peuple. Alors moi, je peux avoir une piété formelle irréprochable dans l'Église aujourd'hui. Je peux aller à toutes les réunions. Je peux donner aux offrandes. Je peux faire tout ce qu'il faut. Mais si ça, ce n'est pas le fruit de mon amour pour Dieu, ça ne sert absolument à rien. C'est complètement inutile, c'est vide. Et si j'ai un vrai amour pour Dieu, alors comme lui, je vais développer un vrai amour pour mon prochain, pour mon voisin, pour ce voisin musulman pratiquant, pour ce voisin sympathisant d'extrême droite, etc. Si ma foi ne se manifeste pas par des actes concrets, elle est morte, hein, nous dit Jacques, chapitre 2, verset 17. Et donc oui, Jésus, il nous invite à aimer, à l'aimer lui, à aimer sa parole et à aimer les autres. C'est une des conséquences. Jésus, on voit à la fin du chapitre 9, les versets 35 à 38 dans Matthieu, Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages pour y donner son enseignement dans leur synagogue. Il proclamait la parole du règne de Dieu et guérissait toute maladie et toute infirmité. En voyant les foules, il fut pris de pitié pour elles, car ces gens étaient inquiets et abattus comme des brebis sans berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Demandez donc au Seigneur, à qui appartient la moisson, d'envoyer des ouvriers pour la rentrée. » Et en fait, nous sommes chacun, tous, des ouvriers dans la moisson du Seigneur. Par son esprit, Dieu nous donne les capacités nécessaires pour accomplir cette mission. Matthieu, qui a été choisi là, c'était un homme finalement ordinaire, à qui Dieu a donné les capacités pour écrire cet évangile qui est encore une bénédiction pour nous aujourd'hui et pour des millions de chrétiens. Donc, choisissons de suivre Jésus, sans compromis, à 100%. Choisissons de l'aimer, d'aimer sa parole, d'aimer notre prochain, et de développer des vraies relations avec lui, et d'être une lettre vivante qui affiche la bonne nouvelle de la réconciliation avec Dieu par Jésus-Christ, autour de nous, dans nos relations. Et dans nos relations, il faut qu'on y aille en réfléchissant. Je vous ai posé des tas de questions. Hein. Qui est-ce que j'invite chez moi? Est-ce que j'invite mes proches? Est-ce que j'invite les gens qui me ressemblent? Il y a un truc qu'on peut faire, c'est de réfléchir à la prochaine personne qu'on va inviter chez nous. De se dire, Seigneur, je veux que ça soit la personne que toi t'as décidé, pas quelqu'un qui me vient à l'esprit parce que naturellement c'est quelqu'un dont je suis proche, mais peut-être quelqu'un avec qui j'ai pas d'affinité particulière, qui me ressemble pas, qui est différent de moi, mais Dieu veut m'utiliser aussi pour cette personne-là. Donc, voilà le travail qu'on a à faire. Développer nos relations, et pour moi le premier. Hein. On discutait avec Christophe aussi hier de la façon dont on utilise le téléphone, par exemple, pour entretenir une relation. Je suis très, très mauvais avec le téléphone. Christelle est aussi meilleure que moi là-dessus. C'est aussi un bon moyen de continuer à entretenir, développer des relations. Alors oui, on a les SMS, des trucs comme ça, mais entendre la voix de la personne, et puis bon, la rencontrer, évidemment, c'est encore mieux, mais il faut qu'on soit intentionnel dans la façon dont on entretient, on développe nos relations, que ça soit réfléchi, pas que les choses nous arrivent juste comme ça, mais que vraiment, on ait envie d'être des ouvriers de Dieu pour son royaume, et qu'on soit motivé par l'amour pour Dieu et pour les autres. Voilà, on va s'arrêter là, je vais prier encore pour chacun d'entre nous. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Merci parce que tu as appelé Matthieu, qui t'a suivi sans hésitation, et qu'il a été ton apôtre, ton disciple, ton témoin, qu'il a écrit cet évangile, et que cet évangile est parvenu jusqu'à nous aujourd'hui. Merci parce qu'on y découvre qui tu es, et je te demande vraiment que tu nous donnes de l'amour pour ta parole, qu'on apprenne et qu'on ait envie de te découvrir à travers elle de plus en plus. Merci parce que tu es celui qui, à travers cette parole, tu te révèles et tu montres qui tu es. Et merci parce que tu ne nous as pas caché les difficultés d'être à ton service et de te suivre en tant que disciple. Mais par contre, tu nous as aussi dit que tu serais avec nous. Et Seigneur, on veut vraiment voir les gens autour de nous avec tes yeux, avoir de l'amour pour ceux qui nous entourent, même les gens qui ne nous ressemblent pas ou qui, au premier abord, qu'on voudrait éviter. Ou qui ont des idées qui ne nous plaisent pas. Mais Seigneur, donne-nous vraiment d'oser aller vers les autres, de témoigner de ton amour. Et merci parce que c'est ton esprit qui va aussi nous inspirer, qui va diriger les relations et qui va aussi nous inspirer dans nos conversations. Et Seigneur, tu as choisi chacun de tes enfants pour propager la bonne nouvelle de ton royaume et on veut être des ouvriers dans ce champ. Merci encore pour ta parole. Au nom de Jésus. Amen.